samedi Sabatier sur M Radio avec Benabar pour la sortie de l'album Le Début de la Suite.
Eh bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Samedi 31 mars, pendant une heure, je vous l'ai dit juste avant les infos, c'est Benabar qui est notre invité et je crois qu'on ne s'est jamais vu ici dans cette station.
Non, c'est la première fois.
Donc ça s'appelle M Radio, c'est la première radio sur la chanson française, qu'on se le dit, je le répéterai plusieurs fois parce que c'est contractuel. Et puis on parle surtout d'un album évidemment, qui est sorti hier, qui s'appelle
Le Début de la Suite, et moi aussi je suis obligé de le répéter plusieurs fois parce que c'est contractuel.
Voilà, et on parlera de la tournée 2018 entre le 7 et le 10 novembre d'abord, il y a Paris au Grand Rex, et puis après je vous donnerai quelques dates qui vont vous intéresser. Est-ce que un album, on le dit toujours, mais est-ce que, même après plusieurs, ça devient toujours quelque chose d'un petit peu angoissant de savoir comment les gens vont réagir? Ou on se dit, non, je fais ce que je sais faire et puis...
Un peu des deux, c'est-à-dire que c'est... Y a un peu ce sentiment d'avoir livré quelque chose de sincère, on a vraiment travaillé d'arrache-pied, on a beaucoup, beaucoup bossé, ça fait 4 ans que je suis sur cet album, et puis grâce au talent de plein de personnes qui ont participé. Et donc il y a un peu le sentiment d'avoir fait le mieux possible, mais il y a aussi cette trouille réelle de se demander est-ce que les chansons vont parler ou s'adressent qu'à moi et à mes copains.
Est-ce que là, c'est dans la lignée, je l'ai écouté, mais pour celles et ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est dans la lignée de ce que l'on connaît de Benabar?
Je crois.
Dans l'univers, comme on dit, Benabar.
Je pense, parce que ce sont les mêmes textes et puis la même voix, mais d'après les retours que j'en ai, il y a un petit changement, notamment musical, dans le son, dans la façon d'aborder un peu la production. Donc, même si c'est pas forcément perceptible immédiatement, il y a, j'espère, une évolution, en tout cas.
Alors, mesdames et messieurs, vous connaissez bien le principe de l'émission parce que vous la suivez chaque samedi, une heure avec un invité, devant lui une tablette. Il y a des mots qui apparaissent. Moi, les mots, je les découvre. Avec ces mots, je dois faire des questions. C'est mon boulot, c'est aussi contractuel. Mais les questions ne sont pas importantes.
Le début de la suite, moi aussi, c'est contractuel.
Mais ce sont surtout les réponses qui le sont. Premier regard, est-ce qu'au premier regard, vous savez à qui vous avez affaire?
Ah non, la question est intéressante et assez vertigineuse d'ailleurs. Non, pas du tout. Moi, je me.
Vous avez besoin de réfléchir pour savoir, pour appréhender, pour estimer l'autre, ou alors c'est genre coup de cœur, coup de foudre?
Bah oui, moi je suis un peu comme ça, mais parfois je me trompe. Donc
vous êtes trompé déjà?
Souvent. Et puis c'est pas forcément déplaisant parce que parfois on se trompe en mal, donc ça c'est très douloureux. Mais des fois on se trompe aussi en bien. C'est des personnes qui vous semblent pas intéressantes ou a priori on a le sentiment qu'on va pas s'entendre avec elles, et au contraire il se passe tout l'inverse.
Est-ce que vous savez quelle impression vous donnez aux autres?
Non, je sais pas du tout, mais c'est pas une question qui m'obsède, ça, pour le coup. Au contraire, c'est alors après, vous le savez comme moi, quand on passe à la télé, quand on est un peu visible, il y a des a priori, des clichés, des fois qui sont fondés et des fois pas du tout.
Il y a pas de clichés sur Benabar.
Il doit y en avoir, je pense, ici. Il y en a eu, en tout cas. J'espère qu'il y en a de moins en moins. J'espère que la carrière aidant, la longévité, permet un peu de tamiser tout ça et puis de rajouter surtout des petites facettes qu'on n'imaginait pas au début.
Je sais que dans votre carrière, pour vous suivre depuis pas mal de temps, il y a eu aussi le théâtre qui a aussi montré autre chose de vous, et vous êtes. Faut le dire, parce que peut-être que tout le monde n'a pas vu Benabar sur scène, mais qui est un excellent acteur.
Merci beaucoup.
Non, c'est vrai, et j'avais eu l'occasion de vous le dire quand on s'était vu comme ça. Voilà, c'est des amis communs. Vraiment, c'est très intéressant, surtout pour quelqu'un qui chante, parce que tout compte fait, quelqu'un qui chante, c'est aussi un acteur. Il y a une histoire, il y a un scénario et il y a un interprète.
Ouais, c'est quand même très cousin comme métier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui chantent ou qui veulent chanter ou qui aiment chanter. Et puis il y a une tradition très très française de chanteurs, acteurs, d'acteurs chanteurs qui remonte à loin et puis qu'on voit encore aujourd'hui chez je sais pas Marc Lavoine, François Morel, enfin bon, plein de gens, Bruel. Et c'est parce que ce sont des occupations, des exercices qui se rapprochent quand même.
Feu de joie, c'est le titre donc que l'on va écouter maintenant, extrait de l'album, et on se retrouve tout de suite après. L'émission est consacrée à Benabar.
Samedi Sabatier, l'interview, des mots pour le dire sur M Radio.
Voilà, je rappelle, et là c'est pas par contrat, c'est simplement par plaisir, qu'il y a une tournée du 7 au 10 novembre, c'est à Paris au Grand Rex. Je vous donne quelques dates: le 24 octobre à Montbéliard, le 26 octobre à Melun, le 27 octobre à Aurillac, le 30 octobre à Annecy, le 31 octobre à Lausanne. Ça, c'est pour le mois d'octobre. Le début de la suite, bah, c'est ça. Mais le début de Benabar, ça s'est passé comment? Quand un jour, il s'est réveillé, faites-nous rentrer dans les coulisses de votre vie, vous vous êtes dit, je ferai chanteur comme métier.
Ça s'est pas passé exactement comme ça, parce que j'ai jamais projeté, jamais je me suis dit que je ferais chanteur, même encore aujourd'hui, je suis très heureux de l'être devenu, mais j'ai jamais eu cette vision-là, j'ai jamais chanté avec un balai devant mon miroir, pour faire le rocker, ça m'est jamais arrivé.
Vous n'êtes pas chanteur par hasard?
Non, avec le recul, je pense que de façon souterraine, il y avait cette envie de monter sur scène quand même, et en tout cas l'envie d'écrire. C'était plus ça ma vocation, d'écrire des histoires. Et puis de fil en aiguille, j'en suis venu à les chanter avec vraiment beaucoup de plaisir et de reconnaissance aujourd'hui, parce qu'on chante en fait quand des gens veulent bien vous écouter.
Le début de la suite, c'est le titre de l'album. Pourquoi ce titre? C'est un beau titre d'ailleurs, le début de la suite. C'est plein d'avenir.
Il y a un peu de ça, mais c'était un peu ce qui est ressorti de l'album quand on l'a préparé et quand on l'a enregistré, cette envie d'aller de l'avant. Je me rends compte aujourd'hui avec les premiers retours que j'ai sur le disque, c'est un peu l'histoire d'un pessimiste qui ne veut plus l'être, qu'en a marre. C'est aussi peut-être une question d'âge, peut-être de ce qui nous est arrivé communément, et la difficulté de la vie et de ce qu'on peut voir, et l'envie de pas être naïf, de voir les difficultés qui sont malheureusement très présentes, mais en même temps l'envie d'essayer de tirer vers le haut, même si on sait qu'on n'y arrivera pas forcément, mais en tout cas d'essayer de tirer vers le haut, d'essayer d'aller vers le lendemain.
Aznavour, que j'ai longuement interviewé plusieurs fois, disait « Tout ce que je raconte, ça ne m'arrive pas. » Même si les chansons, ça reste des histoires. Sinon, je ferais tout. » Est-ce que vous, dans ce que vous racontez, ça vous arrive?
Il y a toujours un petit peu, mais j'essaye aussi de m'éloigner, justement, pour que ce soit pas trop nombriliste. C'est pour ça que j'aime bien faire des portraits, inventer des personnages, pour me cacher un peu derrière eux. Et puis pour essayer de rendre les choses un peu plus... universelles, c'est un terme un peu prétentieux, mais tendre vers ça, c'est de m'adresser à tout le monde, pas que de raconter mes petits malheurs. Ouais. C'est-à-dire, si je dois raconter une rupture, je préfère inventer un personnage qui vient de vivre une rupture plutôt que de parler de moi.
Allez, un autre mot, à moi de faire la question avec, moi tout petit. Alors, ça remonte à quand, vous, tout petit?
Je suis encore, parce que je suis pas un très grand, quand même.
Votre plus lointain souvenir, Benabar, vous aviez quel âge? 3 ans, 4 ans, 5 ans?
Ben, je fais partie de ceux qui n'ont pas de souvenirs très, très lointains, pour des raisons... que j'ai pas cherché à comprendre d'ailleurs, mais j'ai un souvenir par contre très précis et très vivant d'une enfance heureuse, très aimée, très familiale, avec des frangins,
dans quel coin de France,
une grande famille, banlieue parisienne, banlieue sud, dans le coin de Corbeil-Essonne, et banlieusard un jour, banlieusard toujours, ça, même maintenant que j'ai 48 ans, je me rends compte encore aujourd'hui, on reste banlieusard, on n'est jamais parisien. D'être quelque part entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui ont beaucoup d'identité, comme Marseille, Bordeaux, enfin plein de villes, Lille, enfin je pourrais citer quasiment toutes les villes de province. Et puis il y a la banlieue qui est cette période un peu, c'est cet endroit un peu pour moi une période, cet endroit un peu no man's land entre la grande ville et le début des forêts et des champs.
Peut-être que la banlieue que vous avez connue à votre époque ne ressemble pas forcément à la banlieue qu'on connaît aujourd'hui. Elle était certainement moins anxiogène que ça peut l'être aujourd'hui.
Oui, moins anxiogène, mais aussi il y a une belle banlieue dans le coin d'où je viens, alors qui est très nouvelle, avec, j'en parle dans une chanson, avec les lacs artificiels, tous ces pavillons là. Il y a aussi des banlieues
où
il fait bon vivre. Ouais, exactement.
Voilà, on peut vivre heureux.
Cette banlieue classe moyenne. Moi, je viens de là, même si entre temps, je suis devenu un privilégié, et puis. Entre guillemets, j'ai un peu changé de classe sociale. Maintenant, je suis plus un bourgeois que classe moyenne, mais je sais que je le ressens encore, cette banlieue-là, classe moyenne, française, avec un côté assez, assez gaulois, d'ailleurs.
Calogero est dans le programme que vous avez choisi, avec une chanson qui s'appelle « C'est dit ». Pourquoi ?
En voyant la liste, là, tout de suite, je me suis dit, il y a longtemps que j'ai pas écouté cette chanson. J'ai une passion pour cette chanson, j'ai eu l'occasion de le dire à Calogero. Je trouve que c'est une chanson magnifique. Et il y a longtemps que j'ai pas écouté, donc j'ai vu la liste, j'ai sauté dessus.
L'homme que vous écoutez,
c'est quelqu'un qui passe pas beaucoup à la radio, Claude Giraud. Faut l'aider un petit peu quand même.
Très peu, il est jamais venu ici, il vient jamais.
Alors, il est tricard.
Il est tricard. Le 14 novembre, Benabar, c'est la voix de vous écouter. Là, en ce moment, sur M Radio, ce sera à Nantes. Le 14 à Rennes, le 15 novembre à Nantes, le 16 novembre à Caen, le 17 novembre à Lille. Et nous sommes également écoutés à Amnéville, le Galaxy Amnéville, je connais, c'est une énorme salle, où Benabar se produira le 20 novembre. Calogero, c'est dit, c'est maintenant sur M Radio.
Samedi Sabatier sur M Radio, avec Benabar pour la sortie de l'album Le Début de la Suite.
Benabar pour les Parisiens sera du 7 au 10 novembre au Grand Rex. Un autre mot et une autre question. Scénariste. Ah oui, alors moi, je savais pas que vous aviez écrit pour H.
Oui, j'ai participé à H. J'ai fait ça pendant les 4 saisons avec beaucoup de plaisir.
Ma question, c'est j'ai un peu l'impression que quand j'écoute les chansons, c'est facile d'écrire pour vous. Je me trompe peut-être, mais il y a une facilité dans le texte.
Facile, malheureusement, non. Parce que je retravaille beaucoup, mais c'est jamais douloureux. C'est vrai que moi, ça me fait du bien d'écrire.
Ouais.
Même si je peux jeter à la fin de la journée ce que j'ai écrit, l'exercice d'écrire est quelque chose qui m'apporte beaucoup et puis qui est central depuis que j'ai 16 ans, 15-16 ans. J'écris tout le temps.
Il y a un rituel, le matin, l'après-midi, quand ça vous prend?
J'essaye d'écrire à des horaires de bureau. J'essaye d'avoir une vie, pas forcément écrire la nuit à la lueur d'une bougie pour écrire un poème impérissable. C'est plutôt travailler et puis retravailler. Je suis très laborieux. Je réécris beaucoup, notamment mes textes, jusqu'au dernier moment de l'enregistrement des voix. Je corrige des mots à gauche à droite pour essayer d'aller vraiment à l'essentiel de ce que je voulais raconter.
Il y a un témoin, il y a quelqu'un qui vous fait lire au texte?
Oui, il y a les proches, il y a ma femme en premier lieu qui les entend quand je les massacre au piano pour la première fois chez moi. Et puis après, il y a les gens avec qui je travaille et un cercle d'amis, mais j'essaye de faire attention de pas demander trop d'avis, parce qu'après, trop d'avis tue la vie, comme on sait. Donc, j'essaye de faire, et je pense, je demande pas toujours aux mêmes personnes. Je fais écouter un peu, je cible un petit peu pour avoir un retour. Pas tant pour savoir si la chanson est bien ou pertinente, mais plutôt pour savoir si ce que je voulais raconter passe. C'est plus ça.
Autre mot pour l'émission consacrée à Benabar, le showbiz et moi, et moi, et moi.
Ah oui, le showbiz, ça c'est quelque chose de particulier.
Très particulier.
Moi je me sens assez extérieur. Moi j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs showbiz, notamment deux. Au moins deux, c'est un showbiz très parisien, un peu branché, donneur de leçons, qui est assez malveillant et qui existe surtout par une invraisemblable prétention. Et un autre showbiz de ceux qui font des concerts, des disques. Et d'ailleurs, c'est sans jugement de valeur, parce qu'il peut y avoir des bonnes chansons dans les deux domaines. Et moi, évidemment, moi, je suis devenu un adversaire désigné, parce que je ne souhaitais pas l'être, mais du premier showbiz parisien, branchouille. Et ça, ça me va très bien avec le recul, en fait.
Ça vous fait pas mal?
Non, ça complique un peu la vie, mais il y a un prix à payer, mais que je paye volontiers pour. Et puis, je me trouve à l'aise dans ce deuxième showbiz, qui est quelque chose d'un peu plus terre à terre, un peu moins bling-bling. J'espère un peu moins, enfin j'en suis sûr, moins prétentieux et surtout moins donneur de leçons. Et le premier showbiz pour symboliser, et puis le truc, c'est un peu des gens qui pensent s'élever en rabaissant les autres, et moi je pense vraiment le contraire.
Vous connaissez ça à la télévision également, il y a ceux qui pensent. Ceux qui pensent, ceux qui je vais vous dire comment ce que le public veut. Ah bon?
Oui, c'est ça.
Je vais vous le dire. Allez, un autre mot. Stéphanie Manolo Lulmila. Alors, ça fait partie de votre vie privée, j'irai pas plus loin, mais est-ce que ça fait pas aussi partie de vous?
Ah bah oui, moi je suis un père de famille assumé, qui avec des débordements, j'espère que c'est pas trop ennuyeux de vivre avec moi, je le pense pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup être marié, père de famille, ça me va très bien.
La première fois que vous avez vu votre femme, Stéphanie, c'était quand?
C'était la dernière fois, surtout que j'ai, parce que je les vois plus maintenant que je suis connu, hein, j'ai changé.
Oui, bien sûr. La première fois, souvenez-vous de la première fois.
Oui, la première fois. Que...
La dernière fois, on en parlera plus tard. Mais la première fois.
C'était au concert d'un copain qui s'appelle Eric Toulis. qui jouait dans un bistrot à Paris. Et ça remonte à quelques années maintenant.
Et alors, pour revenir au premier mot, au premier regard, vous avez su ?
Non, mais il y avait une attirance, je crois, mais non, j'ai pas eu ce sentiment de coup de foudre.
Quelle est la part de Stéphanie et des enfants dans votre succès ?
Je saurais pas le dire. C'est sûr que c'est central dans l'équilibre, et j'espère faire partie du leur aussi, mais. Moi, je pense vraiment que le succès dépend du travail et du public qui veut ou pas écouter vos chansons ou venir à vos concerts, et que la famille, comme les amis, servent plutôt à vous équilibrer, à vous remettre en question aussi. C'est plus dans ce sens-là. Ce sont un peu des garde-fous et des gens qui sont pas complaisants.
Soyez l'animateur de l'émission, c'est facile, beaucoup plus que de chanter pour moi. Mmh. La petite vendeuse, vous diriez comment pour présenter ?
La petite vendeuse, c'est un portrait, c'est une jeune fille que j'ai vue en taxi dans Paris qui fumait nerveusement sa cigarette à l'arrière du magasin, vous savez, dans la rue derrière.
L'heure de la pause.
Ouais, l'heure de la pause. Et j'ai fantasmé sur cette jeune femme, imaginé sa vie avec le jeune vigile, imaginé ce qui pouvait se passer entre eux. Et c'est un personnage que je trouve très littéraire, la petite vendeuse. Bah d'ailleurs, Zola entre autres, on a déjà parlé. Mais il y a une fonction assez sociale parce que c'est un personnage qui pourrait être un peu interchangeable. Ça a une fonction. C'est des vendeuses. Il y en a dans tous les magasins. On a un peu tendance à penser que toutes les vendeuses se ressemblent, et je suis sûr que non.
On l'écoute, cette petite vendeuse, par Benabar sur M Radio.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier est sur M Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
J'avais promis que je parlerais de Dijon, donc j'en parle. Le 24 novembre, Benabar sera à Dijon. Le 23 à Grenoble. Le 21 novembre à Strasbourg. Il terminera le mois de novembre à Bordeaux.
Moins vite, parce que je note en même temps.
Le 27 novembre, le 28 novembre, je
vous l'apprends. Bah oui. Là, il faut bloquer, il faut que je prévienne, parce que là...
Le 28 novembre à Toulouse, et le 30 novembre, Montpellier, au Zénith Sud. Allez, un autre mot dans l'émission qui est consacré à Benabar, trompette. Alors, ce mot n'est pas là par hasard, trompette. On apprend des choses en préparant l'émission. Je ne savais pas que vous avez commencé à jouer très, très tôt.
Ouais, c'est mon premier instrument, la trompette. Et tout petit, je voulais jouer de la trompette à cause des clowns, je crois. En tout cas, à l'époque, c'est ce que je défendais. Et j'en joue encore aujourd'hui. Bon, par respect pour le public, il y a un vrai trompettiste qui joue avec moi, qui joue correctement, mais j'en joue encore très souvent à la maison avec les copains, des fois sur scène. Et c'est un instrument qui compte beaucoup pour moi, les cuivres, la trompette.
Il y a un instant, quand on a passé la petite vendeuse, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez dit. J'aime imaginer des vies comme ça. Mmh. Voilà, on a tous joué quand on était à la terrasse d'un café comme ça. On regarde les gens, on dit tiens, lui doit être, etc. Mmh. Pour moi. Est-ce que vous imaginiez votre vie telle que vous la vivez aujourd'hui ?
Pas du tout. Moi, je suis encore très surpris. Encore une fois, il y a beaucoup de gratitude parce que je suis conscient que je suis un privilégié. Je suis pas du tout blasé, c'est-à-dire que de faire une interview avec vous est pas du tout un truc naturel ou que je prends par-dessus la jambe du tout. J'ai pas besoin de me forcer, mais je profite de ces moments-là, d'avoir cette chance inouïe de pouvoir monter sur scène devant des gens, de pouvoir chanter, faire des interviews, faire du cinéma ou du théâtre. C'est quelque chose que je prends très au sérieux, mais aussi que je prends avec beaucoup une forme d'amusement respectueux.
Vous avez dit également tout à l'heure quelque chose qui m'a intéressé. Quand on est banlieusard, on reste banlieusard. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire, vous me dites si, parce que moi aussi, je suis banlieusard, il y a longtemps, quand on est de classe moyenne, on reste toujours de classe moyenne. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec moi ? C'est-à-dire, on n'oublie jamais là d'où on vient.
Ah oui, ça je le ressens vraiment, même si ma vie a changé. Même dans ce que je raconte, je me force pas à parler de la petite vendeuse ou du gars qui fait son jogging justement en banlieue autour du lac artificiel. Je me force pas du tout. Ce sont des choses qui me viennent naturellement parce qu'en effet, ce sont les miens, cette classe moyenne. Et que je trouve pas assez souvent célébré et avec les défauts, mais aussi la grande noblesse.
Un autre mot, les enfoirés, vous en faites toujours partie ?
Oui, enfin cette année j'ai participé au spectacle.
Ça s'est passé à Strasbourg.
Et
bon, alors on a dit beaucoup de choses sur les enfoirés, comme quoi c'était moins, plus,
tout le temps.
On dit toujours des trucs, de toute façon.
Exactement. Moi, j'applique la jurisprudence Jean-Jacques Goldman. C'est-à-dire que je sais pourquoi j'y vais. Et je me pose pas d'autres questions. Donc, y a de toute façon une polémique par an sur les enfoirés. Moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que j'y vais. Depuis la première année, y a une polémique. Ce que je rappelle à chaque fois, c'est que les enfoirés, c'est un ensemble de, entre guillemets, personnalités très facultatives, dont on fait partie, interchangeables surtout, c'est important de le dire, qui se retrouvent une semaine pour faire un spectacle dont tous les bénéfices sont reversés à une association qui s'appelle Les Restos du Cœur, pour aider les gens qui n'ont pas assez à manger, donc c'est tout. Et tout ce qui est autour, pour moi, c'est parfaitement hors sujet. Et ceux qui critiquent les enfoirés, parce qu'évidemment, on est tous critiquables, mais critiquent ce truc-là. Il faut pas chercher plus loin, c'est que ça, les enfoirés.
Donc nous, on s'arrêtera là, si ce n'est qu'il y a Patrick Fury dans les enfoirés.
Il y a Patrick Fury.
Et que vous l'avez choisi dans votre programmation.
Ouais, parce qu'il y a cette chanson, écrite par Jean-Jacques, d'ailleurs, je crois, la musique, et peut-être les paroles, d'ailleurs, il faut que je vois. Et puis j'ai pensé, c'est une chanson aussi que j'aime beaucoup, puis j'ai vu Patrick il n'y a pas longtemps, donc ça me permet de lui faire un clin d'œil.
Patrick Fiori sur l'antenne d'M Radio dans l'émission de Bruno Benabar, Elle.
Samedi Sabatier sur M Radio, avec Benabar pour la sortie de l'album Le Début de la Suite.
Et je rappelle, du 7 au 10 novembre au Grand Rex, à Paris, combien de chansons ?
Sur l'album ?
Sur scène.
Sur scène, on fait à peu près 25-30 chansons, mais qui sont vraiment un mélange de tout ce que j'ai pu faire. Pour moi, la scène, ça n'a jamais été le service après-vente d'un album. C'est-à-dire que je ne conçois vraiment pas ça.
Un spectacle, en soi.
Voilà. Puis comme moi, j'ai toujours tourné depuis que j'ai commencé, dans les bistrots en l'occurrence, mais j'ai toujours tourné quasiment indépendamment des albums. C'est-à-dire que je tourne, puis après, le dernier album vient un peu alimenter et renouveler le répertoire.
Nous sommes le 7 novembre, il est 10 minutes avant d'entrer en scène, vous faites quoi ? Vous êtes seul ? Il y a du monde ?
Non, il y a plutôt pas mal de monde, on boit un coup avec les musiciens la plupart du temps, et puis, la plupart du temps, tout le temps d'ailleurs. Ouais. et après je commence à faire mes petites superstitions avant de monter sur scène.
C'est quoi ?
Bah, j'embrasse mes médailles nombreuses, je touche du bois, et puis j'essaye de... Moi, j'ai une concentration un peu hypocrite, c'est-à-dire que c'est justement en racontant des blagues pas forcément toujours littéraires avec l'équipe, que je me concentre et que je me détends, parce qu'il y a toujours cette trouille légitime, d'ailleurs, de monter sur scène, de décevoir les gens qu'on fait le déplacement.
Autre mot, dans l'émission qui est consacrée à Benabar, récompense, vous en avez eu. Et il semblerait que ça vous fait plaisir, bien sûr, mais je me trompe peut-être, pas plus que ça. Bah, c'est pas péjoratif.
Hein, oui, c'est, voilà, mais bon, c'est vraiment...
Merci messieurs, dames, merci.
C'est vraiment ça, c'est-à-dire que je crache pas du tout dans la soupe, ça me touche infiniment quand on me fait une récompense. J'en ai refusé parce que je pensais pas en être digne. Mais c'est pas parce qu'on le sait tous, alors c'est un peu un cliché, mais c'est quand même la vérité. La seule récompense, c'est de pouvoir jouer sur scène devant des gens ou de chanter sa chanson devant des gens. Après, puis il y a beaucoup de récompenses qui sont très factices aujourd'hui. On voit des gens qui se récompensent eux-mêmes, on sait même plus, ils se donnent des médailles, ils ont même pas fait la course, quoi.
Allez, on passe à autre chose, à un autre mot. Fort, fragile, qu'est-ce que vous êtes? Alors, on va dire les deux, on est tous fort et fragile, mais c'est quoi votre caractère?
Je suis un peu cyclotimique, moi, donc ça monte, ça descend.
Ça dépend des jours.
Ça dépend un peu des jours, voire des heures.
Carrément.
Sur des moments, ouais. Des fois,
là,
ça s'accélère.
Là, on est dans une bonne heure, moi, je trouve.
Exactement, là, ça va. Grâce à vous, d'ailleurs.
Non. Alors.
Mais j'ai le sentiment aussi professionnellement que ce métier rend ou plus protégé, donc plutôt plus fort, ou plus vulnérable. C'est-à-dire que si on se protège beaucoup, bon, le danger, c'est de devenir prétentieux et vraiment dans sa tour d'ivoire.
Ouais.
C'est un chemin que moi, je n'ai pas choisi. Donc, l'autre chemin qui veut justement rester en contact avec les choses vous rend un petit peu plus vulnérable. Mais ce qui n'est pas forcément...
Ce qui est même plutôt bon.
Oui, ce qui n'est pas forcément grave.
Dans l'écriture, dans la façon de communiquer.
Pour pouvoir continuer à écrire, pour pouvoir continuer à être disponible et attentif à ce qui se passe autour de soi.
Un autre mot dans l'émission qui vous est consacrée sur M Radio. Un jour, je le ferai. Qu'est-ce que vous ferez un jour ? Un jour, je le ferai, ça. Un jour, je le ferai. Oui, mais
alors, j'ai un objectif, c'est de lire entièrement la comédie humaine.
D'accord.
Et c'est pas sûr que je le fasse d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas une pression que je me mets, mais moi j'ai toujours été fan de Balzac depuis jeune d'ailleurs, et de plus en plus l'âge aidant, et de lire ce monument en plus avec toutes les interférences et les personnages qui reviennent, l'arborescence, c'est un petit projet. Certains c'est traverser l'Atlantique.
Mais c'est fou ce que vous dites, parce que quand enfin moi j'en ai des souvenirs, et à un moment donné on se dit à quel point c'est actuel, c'est-à-dire que les gens n'ont pas tellement changé dans leur rapport.
Ah oui, exactement, et notamment...
Les tas de trucs ont changé, Internet, tout ça, la technologie, dans les rapports humains,
exactement.
L'envie, la jalousie, la mesquinerie...
L'intrigue,
ça, c'est
ce
vrai.
Que vous disiez tout à l'heure sur les deux show business, enfin ce que je disais quand on parlait des deux show business, là c'est très criant, parce qu'il y a vraiment les salons parisiens qui sont un peu les mêmes qu'aujourd'hui, avec des grâces, des disgrâces, des petites manipulations, c'est en effet terriblement d'actualité. Ouais.
Un autre mot. Je peux craquer pour ça, c'est le dernier mot de l'émission là, parce que l'heure tourne. Je peux craquer pour ça, pourquoi ? À part pour le chocolat, et encore ?
Le chocolat, pas beaucoup, le vin rouge et la bouffe, pas quotidiennement, mais pas loin. Ça fait vraiment partie de ma vie, j'organise beaucoup de choses autour de ça d'ailleurs, les restos, les copains, les dîners interminables... Les dégustations, ça c'est...
Est-ce qu'il y a des gens qui vous font craquer parce que soit ils ont un talent qu'on n'a pas, vous vous dites quand même le type est formidable ou...
Ah oui, il y a vraiment des personnes qui m'impressionnent, qui m'épatent, mais ça peut être en effet des entre guillemets célèbres.
Oui,
un anonyme.
La petite vendeuse peut vous faire craquer.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui. Et d'ailleurs, elle me fait vraiment craquer au point d'en faire une chanson où je raconte un peu un trouble amoureux d'ailleurs. C'est ce genre de personnage. Puis des gens qui font des choses notamment me font craquer. Il y a beaucoup de gens qui commentent, et puis c'est un peu notre cas à tous, on commente un petit peu souvent. Et c'est bien aussi de pas oublier de faire les choses, parce que sinon on ne fait que les commenter.
Le 6 décembre, je continue, c'est loin, mais vous serez au Mans. Le 7 décembre à Brest.
Le Mans, M-A-N-S. Ouais.
Le 11 décembre, Lyon. Je vous ai retenu une chambre d'hôtel, vous verrez, c'est sympa là-bas. Le 13 décembre à Clermont-Ferrand. Le 14 décembre à Compiègne. Et le 15 décembre à Bruxelles. Béninbar, le début de la suite, c'est sorti hier. Et je rappelle que pour ceux et celles qui sont apparus, c'est du 7 au 10 novembre. Et je rappelle surtout pour ceux qui aiment Béninbar, restez dans son univers. Laissez-vous bercer, parce qu'il y a... Oui, bercer est le bon mot, je trouve.
Merci.
Bercer dans un monde que l'on pourrait tous écrire, sauf que
vous êtes en train de dire que mes chansons sont soporifiques.
Pas du tout, pas du tout. Surtout, d'ailleurs, elles sont bien rythmées. Là, non, même pas du tout, mais je veux dire, quand bercer, on est dans un monde, dans un univers. On se dit tous, j'aurais pu l'écrire, sauf qu'il y en a un qui a du talent et l'autre qui ne l'a pas. Celui qui a du talent s'appelle Béninbar.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup en tout cas.
C'est moi qui
voilà, c'est l'heure est terminée, ça va vite. À la semaine prochaine, je vous souhaite de passer un excellent week-end sur M Radio et faites attention à votre santé.
Au revoir.
Samedi Sabatier sur M Radio avec Béninbar pour la sortie de l'album Le début de la suite.